Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Avant de commencer cette émission, je voudrais vous lire un poème qui est extrait de la revue La NRF, la nouvelle revue française, une vieille revue bien connue. Il s'agit du numéro 659 qui avait pour titre le dossier « C'est donc non, quand le refus devient fécond ». Il y avait des textes de Kamel Daoud, de Jérôme Garcin, d'Emmanuel Lambert, de Marilyn Maezo, de Daniel Pénac. Et donc ce numéro de la nouvelle revue française qui a paru en l'automne 2024, donc c'est un numéro qui est assez ancien, est un numéro quand même qui a compté pour moi parce que cette idée du refus, comment dire non, m'a semblé être tout à fait dans l'air du temps, avec le mouvement MeToo, etc. On est dans cette question de savoir dire non. Alors, dans cette revue, dans ces différents articles, donc sur le qu'est-ce que doit être le non, on cite bien entendu Camus, etc. J'en parle de temps en temps. Mais il y a un article qui m'a interpellé, peut-être en particulier. C'est celui de Jennifer Tamas. Je vais vous lire ce qu'il dit, juste quelques phrases que l'on peut mettre en exergue. La poésie lyrique, dit Jennifer Tamas, et la littérature amoureuse, pour énivrante qu'elle soit, ont tissé dans l'ombre et depuis des siècles le plus secret des malentendus, l'érotisation des refus féminins. Face à la dame ou la jeune fille qui ne cède pas, la persistance amoureuse du poète crée une ambiguïté. Le non, qui a certes été perçu, ne met pas fin à la supplique érotique. S'agit-il de le sublimer par pur désir de création ou de passer outre pour mieux convaincre de son amour? Est-ce un acquiescement poétique ou un déni de refus? Voilà. Phrase à méditer parce que là se pose le problème en particulier de l'érotique des troubadours. Et ensuite de toute la descendance de cette érotique des troubadours, c'est-à-dire, en définitive, de tous les poèmes amoureux qui sont des poèmes où le poète, l'auteur, essaie d'avoir cet acquiescement, donc, de la dame qui se refuse. Voilà. Donc je vous laisse ça, c'est une interrogation, c'est un sujet qui est un vaste sujet sur lequel peut-être nous reviendrons à propos de poètes qui ont une œuvre qui toucherait évidemment à ce domaine, donc de la littérature amoureuse, qui est l'érotisation donc des refus féminins. Voilà, je voulais simplement en parler, et puis pour poursuivre cette interrogation, donc, et puis aussi cette affirmation du nom, parce que le nom doit aussi s'affirmer, et il est invraisemblable que le nom ne s'affirme pas. Voilà. Et donc je vais lire un poème d'un romancier essayiste slovène qui écrit aussi des poésies, qui a été son premier recueil, d'ailleurs, s'appelait après le livre des choses, et ça a été traduit, c'est un poème slovène, dont Aleš Steger, je suppose que ça se prononce comme ça, Aleš Steger, qui avait écrit le livre des choses, c'est le premier recueil qui a été traduit en français en 2017, et qui a écrit là, pour cette revue, un poème qui s'appelle « Le nom, un essai ». Voilà, il y a plusieurs strophes à ce poème, et chaque strophe porte un numéro que j'indiquerai au fur et à mesure de la lecture. Alors, en exergue, il y a une citation de Paul Celan, qui est celle-ci, « Dit vrai qui parle d'ombre ».« Dit vrai qui parle d'ombre ». Écoutons Aleš Steger. 1. Dans ma famille, non et oui sont deux personnes. Le non est le père, le oui est la mère. Le père ne voit que le roc dans sa tête. La vie était le carrière de pierre. Le père s'entête. Non, 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 non. C'est ainsi qu'éclate son roc, qu'il montre le jour, descend la nuit. Non, 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 non. La mère ne peut rien refuser à ses peurs pétrifiées. Alors, elle supporte en silence le nom du père. Parfois même en martyr, soutient, pousse, sonne. Humiliation, non, 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 par le père. Maman ne peut pas dire non. Maman ne peut pas dire oui. Maman dit oui, de sorte à ne pas mettre de bâton dans les roues du non, 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 roc. Le père dit toujours non. Le père roule, éclate toujours. Quel bon père il serait s'il roulait, créait autre chose qu'un roc de négation. 2. Dans le langage de l'amour qui est un, il faut dire oui à tout. Sinon, l'amour s'effondre. Mais il n'est d'amour que seul et unique, où c'est un amour effondré. C'est ainsi que j'ai, dans une langue effondrée, toujours à nouveau, toujours de nouveau, appris à aimer avec les ruines et à ne faire qu'un avec ma propre destruction. 3. Mon oncle fut, à plusieurs reprises, un alcoolique traité sans succès. Quand j'étais enfant, le matin, il m'amenait à l'épicerie. En chemin, il me tirait d'une main tremblante, « Monte, monte !» sur les marches raides de l'auberge du village. « Vite, vite !» Que personne ne nous remarque. Quand il ouvrait la porte dans la pénombre enfumée, une serveuse, « Psst, pas un mot !» lui versait l'eau de vie. 2 décimètres, à ras-bord. Il le vidait d'un trait. « Pas un mot !» Psst. Il me traînait en bas, sur les marches raides. Sa main ne tremblait plus. Il me faisait confiance pour ne pas le trahir à la maison. Et de fait, j'ai caché en moi avec effroi les yeux d'un homme qui ne savait pas dire non. 4. Mais pour beaucoup, une meilleure nourriture est le nom d'une protestation de salon. Un nom de dinde criarde et boursouflée, qui ne se lasse pas de scander matin, soir, à tout moment, le nom de l'offensé, le nom du choqué, le nom du plus intelligent et le nom du plus moral, le nom de manifestant à plus de plumes, qui picore, répète des phrases, un nom de côte, 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 non, côte, 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 non, 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 côte, 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 voilà comme sonne, voilà comme se nourrit notre volaille calculatrice. 5. Avant de se mettre à parler, le poème doit nier le monde entier, briser les liens d'appartenance, être une goutte, pas de l'eau, être de l'eau, pas un puits, être un puits, pas une veine d'eau, pas une source, pas un fleuve, pas un océan, une goutte, pas une goutte. Seulement, après que le poème s'est complètement libéré du monde, quand il établit silencieusement son nom, il est assez libre, assez frais, assez pur, pour s'infiltrer dans les entrailles de la terre, pour remplir les corps du désert. En eux, il se tient, vibre, revit, pour être sali par eux. Il affirme depuis les profondeurs du monde que le poème ne crée que pour vous quand il s'élève dans le ciel, quand burlesque il s'écrase, quand il est poème déchu, qui pleut, qui disparaît, qui dit, quand il sort de toi, quand il est sueur, salive, larmes, sperme, quand tu es, quand il est, quand il se met à parler, quand il ne fait qu'affirmer le témoignage de l'inconnu. 6. Le plus intéressant, n'est-ce pas, est le nom qui est, n'est-ce pas, ou bien pas vrai? Le plus extorqué, le plus suspect, le plus pollué des oui. 7. N'est-il pas la toute fin? Ne sont-ils pas le nom de tous les noms, le nom à la vie elle-même, si possible pas banal, pas par pendaison ni en buvant des pesticides, pas d'une balle dans la bouche, pas ce nom à la fin des fins. N'est-ce pas le nom de tous les noms, le rituel parfait d'un sépicu? Ou bien le nom de tous les noms n'est-il pas, mais mon nom que je vis chaque jour, que je décide matin après matin, ma rébellion quotidienne, invisible aux yeux des autres? Non, je ne me tuerai pas, pas même aujourd'hui, malgré tout. Voilà, poème donc traduit du slovène par Guillaume Métayer, de Alex Steger, donc ce poète essayiste et romancier slovène. Voilà ce que je voulais dire pour le nom, bon, parce que ce dossier de ce numéro de la NRF, hein, bon, qui date un peu, bien sûr, mais enfin, qui est toujours intéressant, qui est passé peut-être un peu inaperçu. Alors, je vais vous parler maintenant d'un poète, contemporain, qui est Thomas Vineau. Thomas Vineau qui fait paraître au Castor Astral dans la collection Poche aux Poésies, une excellente collection, La compagnie des monstres, c'est le titre du recueil. Alors, Thomas Vinot, c'est un poète connu depuis longtemps. Hein. Il a écrit des romans, on le trouve chez Gallimard. Il y a des récits, bon, il a aussi écrit des livres poésie. Et donc, il fait paraître ce dernier livre, au Castor Astral. Il y a des monstres qui sont très bons, disait Guillevic, qui s'assoient contre vous, les yeux clos de tendresse. Ça, c'est de Gene Guillevic. Alors, pour vous présenter ce livre, je crois que le mieux, c'est de lire la préface, donc de ce livre, surtout quand cette préface est écrite par un poète et un peu comme un poème. C'est Guy Bollet qui a écrit cette préface à Il y a des monstres, de la Compagnie des monstres, donc, de Thomas Vinot. 1. Thomas vit notoirement en poésie, autrement dit, Thomas vit notamment en poète du tome A jusqu'à Z, qu'il signe d'ailleurs de la pointe de l'épée en mots toujours feutrés, d'un Z qui veut dire ziva, au turbin, puisqu'un poète se doit de toujours avancer, mystérieux et comique et masqué. Alors là, il y a une mise en scène de cette écriture, puisque il l'écrit comme un poème, en coupant les mots d'ailleurs, en coupant le mot, et puis quand il parle de épée, en mots toujours feutrés, alors de la pointe de l'épée, c'est pas de l'épée et E, d'épée qui sert à provoquer un duel, mais de l'épée de l'épaisseur, voilà, d'épée AIS. 2. Se transformer en monstre, il n'en a pas eu le choix. C'était sa seule issue pour ne pas devenir une horde à lui tout seul. L'ombre d'un chien, d'un ours, d'une barque, d'un caillou, d'un volcan au pire, l'ombre du papier peint, d'un mur au pied duquel le sol était jonché d'éclats de verbe. Certes, d'aucuns grincheux vont dire que ça n'est pas très finaud, la Compagnie des monstres, fussait-il parfois très bon. Ça fait peur aux enfants, ça fout des poils partout, ça bave, ça rote, ça pète, ça réveille des volcans, et ça donne le hoquet aux belles, au bois dormant, qui est jusque-là, ma chère. Puis on sait paisiblement, en attendant ce prince, qu'on dit toujours charmant. Mais le poète n'est pas un gringalet bellâtre. Jamais il ne porte au torse pourpoint de zibeline, au crâne cheveux blonds, aux dents sourire d'émail, pas plus qu'il ne chevauche un fougueux destrier au panache hugolien. Tout juste une rossinante qui hennit chaque fois que ses sabots se coincent dans quelque trou balourd et qui, en régambant, lui susurre à l'oreille par le travers du morse. Chevalier, regard oblique, marche tordue, pour remettre ce monde droit. À quoi le chevalier, que sa figure attriste, en une nuit brillant par son absence sous des pluies de mots vains, ne peuvent rien faire d'autre que tatouer l'espace, lui répond, barbe en pointe, « Nous sommes le bras d'honneur, sans bras et sans honneur. Nous sommes des monstres, nous sommes le duvet des monstres, nous sommes des charognards de la lumière, nous sommes la gloriole et la gaudriole. » Nous sommes libres d'être une erreur, nous sommes en si mineur. C'est très joli, si mineur. Jean-Sébastien Bach, poète allemand, en avait fait d'ailleurs quelque chose comme une messe. 3. Jadis, Thomas le Bienheureux, Vinot de patronyme, ayant lu tous les livres, surtout ceux méprisés par les masses, c'est-à-dire se forger par de petits marteaux sur l'enclume fragile des âmes inconsolées, avait payé ses dettes en deux jolis volumes où étaient compressés tous les purs de la plume et non les emplumés, qui bientôt croqueriques. Les Calais, les Bouviers, les Valais, les Kerouacs, les Hautain-Greniers, les Cosseries, les Coutais, les Hivernaux, Rictus, Mougins, Perros, Valzer, et toute leur fratrie d'abeilles et de Chessacs, d'Hygmètes et d'Ardelais. Ils les avaient portés jusque dessous nos yeux, fastoches, légers, les doigts dans le nez, puisqu'en clochard, céleste, ferme ta gueule, Thomas, s'il te plaît, je suis en train de t'écrire une belle préface d'amour. Tout ça, mes lecteurs, c'est du passé, pas très passé, car toujours publié, toujours à déguster, 76 paumés d'un côté, 76 dévastés de l'autre, mais cessons d'en parler, revenons au présent, au monstrueux chantier de phrases aboutées, où gîte cette poésie dont on doit vous causer. 4. A.I.Q. Bien malin celui qui pourra dire à autrui ce qu'est la poésie. Voilà, c'est ça le A.I.Q. Hein, 3 lignes. 5. La poésie, mes chers, aussi indéfinie soit-elle, assise sur le gros cul gélatineux du temps, à contempler les gouttes d'une pluie qui se refuse à tomber pour ne pas qu'on la confonde avec un sac de larmes, n'est pas si sotte qu'on croit. Elle sait par avance que l'échec se construit brique par brique et que l'amour est un petit pansement tiède sur la plaie salée d'une vie. Elle sait, il y a des choses, il y a les mots qui se transforment en choses. Il y a les choses qui se transforment en mots. Entre les deux, il y a les murs. Les murs, c'est le papier, c'est la peau des choses et des mots. Ne leur en voulons pas. Les murs font ce qu'ils peuvent. C'est dangereux, tout ça. Fais attention à toi, Vino, qu'on prénomma Thomas. La langue est un couteau que tu tiens par la lame. Ne te découpe pas en tout petits morceaux. Je sais bien que ta peur prend des selfies de son nombril et que la nuit en boxe s'en protège dents. Mais méfiance, l'ami, l'adversaire est nombreux. Il s'appelle toi-même et c'est bien avec lui, ou plutôt avec eux, que pour nous tu écris. Tu as vraiment bien fait de te vêtir en monstre. Conserve tes écailles, tes griffes et tes crocs. La vie, nous le savons, ne fait pas de cadeaux. 6. Oui, mais m'aiderez-vous, on ne sait toujours pas de quoi que ça va causer. La compagnie des monstres, même ceux qui sont très beaux. Oh là, ô lecteur hypocrite, semblable demi-frère, n'ayez pas confondre les faits et la cause. Ça ne parle de rien, la poésie. Ça pleut, ça pleure, ça rit, ça s'éparpille en soi, dans ces régions étranges où se cachent les mots, et ça ruisselle en nous dans ces endroits bizarres où végètent nos mots. Ça se frotte aux parois, ça compresse le temps, ça le transforme toujours en cette pointe d'épingle d'où jaillit l'univers, puis ça s'expanse et ça jubile, et ça bourgeonne, ça jaillit, ça explose en myriades d'émotions qui s'éparpillent au sol en bribes de nous-mêmes, qui, sitôt apparus, aussitôt disparaissent. Trou noir qui nous sidère et qui rend le poète tout aussi sidéré. Peut-être ai-je atteint le pays où la page s'efface, car n'est pas Dieu qui veut. L'homme a besoin de repos, envie de dormir longtemps au fond d'une rature. Dormir, entre sève et sommeil, entre étang et geyser, entre mots malaxés et phrases recrachées, les deux pieds arrimés aux confins du ver libre, les deux pieds arrimés au doux métier de vivre. La poésie doit être comme une aube nouvelle, revanche de la rosée. Semblable à l'eau de source, elle ne triche pas, elle n'a pas d'opinion, de désir forcené ou de but avoué, puisque, ici il n'y a pas de courant, ce serait trop facile d'arriver quelque part. 7. Il y a des trampolines au fond des précipices, des vers d'ombre qui musardent entre chiens et volcans, et toujours quelque part, au rang à croupetons, un poète déguille et recouvert d'écailles dont on ne sait pas s'il danse ou s'il souffre. On pressent juste qu'il passe la plupart de ses nuits à recoudre la peau jaune de la nuit. Fredonnant à la lune comme pour la narguer, on a faim, pas sommeil, nous n'avons pas de destin, nous n'en voulons pas, nous sommes autre chose que des bêtes ou des hommes, nous persistons, nous avançons. Avancer, seul but et seule issue quand on se pique d'écrire. Don Quichotte sans blason, sa carapace de monstre désormais à ses pieds, il galope, Thomas, en quête de moulins, opales, pâles, blanches, qui font vibrer la plume, jamais moulins arrière, toujours moulins avant, on vous avait prévenu. Un poète se doit de toujours avancer, mystérieux et comique et masqué. 8. Pour comprendre un poète, il suffit de le lire. Tout le reste est inutile, faux et fastidieux. Voilà la préface de Guy Bollet. Il y a des monstres qui sont très bons. Donc, première partie, il y a des monstres qui sont très bons. Un ours qui cherche. Le sous-titre. Un ours qui cherche comment rentrer chez lui. Errance hirsute, silhouette cabossée, toute l'ombre qui le suit. Un ours qui marche longtemps pour s'inventer un refuge. Un ours qui cherche se cache n'importe où. Derrière les ailes d'abeilles, dans les sabots du vent, dans la viande et l'humus, au fond de ton sourire. La nuit, l'ours qui cherche rentre chez lui, éternellement. Parfois, le sang des autres forme comme des larmes rouges au bord de ses paupières. Il est l'orphelin des prairies sombres, le souverain des hurlements. Il fouille dans les cascades, les épines, les souvenirs. Derrière lui, on remonte la piste. Ses traces lourdes de mélancolie à 5 griffes. Un ours qui cherche, on ne sait pas s'il danse ou s'il souffre. On ne sait pas ce qui pousse dans son ventre, une saison, du foutre, la colère, un ourson. Il est une montagne qui chante en s'effondrant, un météore affamé. Il avance pour gifler le vide qui le dévore sous les couvertures. À gémir, à rire ou à grogner, ce qui revient au même. Le long de ton échine, il déchire son paysage. Sa langue lèche, râpe les petites baies glacées de nos orbites. Sa faim nous console. Dans la forêt, dans la fourrure d'une charogne, dans l'appétit qui le dévore, dans l'enfantement, dans l'immense dévastation de son amour. Thomas Vinot, La Compagnie des Monstres. Nous allons aller un peu plus loin et nous allons parler de... C'est le titre donc de ce sous-chapitre E. Il y a celle qui porte sa chaise pliante, toujours, qui parle fort, une langue pleine d'accent. Elle a les cheveux sales, blancs, le visage émacié, tanné, ridé, une robe blouse chiffon dont on ne distingue plus les motifs. Chaque matin, au PMU, près de la fontaine, elle lit le journal à voix haute, pour quelqu'un qui n'est pas là. Il y a shorts jusqu'aux genoux et chaussettes sur les mollets, celui qui n'est pas tout à fait fini. Il n'a plus d'âge, et joue de la trompette dans la fanfare du village. On le voit souvent traîner dans les petites rues avec sa banane et sa bouteille d'eau. Quand il a chaud, ses lunettes se recouvrent de buée. Il y a le shérif, rouge, sale, bouffi, chemise dans le pantalon, étoile de western sur la bretelle. Il glane les mégots, marche 20 kilomètres par jour, finit les bouteilles des autres à l'hospice. Quand il sourit, il est comme un bébé qui fait une grimace. Il y a les deux casquettes tordues, les deux pépés sans âge, visière à l'envers sur leur tabouret formica, ils n'entendent presque plus rien, ratent la boule 2 fois sur 3. L'un des deux garde toujours sur lui les clés des toilettes publiques pour toute la bande. Il y a la cloche du coin. La barbe longue, puis le crâne chauve. Une jambe qui traîne, l'autre qui tremble. Au minimum, une demi-heure pour remonter le boulevard. Lui ne joue pas. Il regarde. Après ce qu'il a passé, c'est déjà bien de le regarder. Là, dehors, à l'ombre. Il y a les deux boiteux, les deux fragiles, des bambins séculaires, des vieillards nourrissons, un homme et une femme. Lui, lunettes. Elle coupe Mireille Mathieu. L'un, jamais loin de l'autre, clopine dans la ville, pantalon remonté haut, veste fermée jusqu'au dernier bouton, un couple, ou frère et sœur, non, c'est un couple. Voilà, 56 ans, qu'il songe
à s'embrasser à la cantine. Il y a le graillon qui se bécote des lardons directement dans leur boîte et qui taxe et qui taxe des euros ou des clopes, des moments au bistrot, des petits bouts crus de plaisir, des gros mots. Depuis quelque temps, il est sur un fauteuil roulant. Il y a l'homme escargot, une boule de vieillesse qui porte toujours un énorme sac poubelle. Il arpente la lumière et récolte ce qui traîne, les bouchons, les papiers, les bouteilles et les mégots. Monsieur Gastéropode nettoie le monde. Le sillon de sa bave fait briller les jours sales. Eux ne sont pas salauds. Ce sont des chiens perdus, des enfants puants, ensevelis sous des couches de chair morte, à force de n'avoir pas été dites. Ils sont la langue que personne ne parle, les innocents pourrissants, le mauvais sang du village. Ils sont le sourire tordu de la nuit, les remugles endentés qui s'effilent autour de nos miroirs. Vous voyez, un portrait dur, cruel, ironique. Eux, donc. C'est eux, et ce eux-là, c'est eux-là. C'est aussi ce que l'on peut appeler cette poésie du réel, la poésie du quotidien. La semaine dernière, on parlait de Mylène Tournier. C'est aussi dans ce genre-là, de l'observation du quotidien. Chez Thomas Vineau. Fait divers. Alors, fait divers, c'est pas divers, D-I-V-E-R-S, c'est l'hiver, la saison. Fait, D'hiver. Fait divers. Près d'un hectare de vigne fraîchement attachée, qui faisait comme un champ de bataille recouvert de corps tordus au sol, il fut trouvé gisant sous les amandiers noirs, dans la boue qui crépite, crâne fendu de l'hypophyse à la mâchoire, par la hache bleue du ciel. Toute la nuit suivante, en un long serpent rond, ne cessa de gémir. Elle claquait comme un fouet sur la peau nue des rêves. Elle traquait de ses gongs, elle coulait verte et noire, se nouait de mensonges en un chapelet sombre. Ainsi, le lendemain ne fut pas vraiment un lendemain. L'aube était ce gibier, mammifère perdu à la chair tiède et rose. Elle furetait le ciel, retournait chaque brin d'herbe pour chercher un sein à téter de lumière. L'aube cherchait sa mère, une source au cœur chaud, une main qui recoiffe ses épines diaphanes. Et chaque jour, avançant, était cet orphelin. Nous sommes venus de loin, Saint Thomas en légion, trempés les uns après les autres nos doigts dans la plaie du matin. Une armée de fantômes, indextendus vers l'instant mort, prêts à tremper puis à goûter, comme dans le sexe d'une reine. Des bêtes sortaient de leurs trous. Des bêtes, ou des hommes, c'est pareil. Et le sang montait dans les veines, et la sève montait dans les arbres. Les larves crevaient leurs membranes. La grenouille s'inventait des yeux juste pour voir le cadavre. Du crâne fendu, un jus jaune, puis orange, puis rouge, puis vert. Du crâne fendu, une étrange placenta de vent et de terre. Les fleurs d'amandier furent les premières dents de lait. La loque pourrissante rinçait d'eau et des lumières. Elle sentait la fleur qui pousse dans les ventres. Doucement, les diptères butinèrent l'agonie. Doucement, la lumière s'allongea dans la boue, dans leurs mains, du brouillard agrandi. Un enfant a dit « Vous êtes des menteurs !» Un autre a dit « J'ai faim !» Un autre a dit « J'ai peur !» Ici et maintenant, dans la carcasse fumante, plus de juges, que des chiots, des orages affamés, des oiseaux qui se moquent. Voilà, vous avez une idée donc de cette écriture de Thomas Vinon, cette parole, parole poétique, rugueuse. Alors, Chevalier à la triste figure, on va finir peut-être là-dessus. Donc, dans la préface, on a parlé du Quichotte, et on va lire là « Chevalier à la triste figure » de Thomas Vinon, dans la compagnie des monstres. Il se bat contre l'ennui qui mouline sec, du lundi au samedi, quand au dimanche il languit. Il rêve d'autres moulins, d'épopées, de terre rouge, rossinante, au bout de parfois. C'est qu'il varie le destrier, notre fier chevalier, souvent chevauche mélancolie. Il fait de grands feux, bivouac chaque soir, entre le noir et la nuit. Dulciné en tête, heureusement, heureusement, petit pansement tiède sur la plaie salée d'une vie. Chevalier errant, sans posture, maladroit et malhabile, il se brûle le bout des doigts. À vouloir capturer les braises, il en jongle presque. Dans l'aube fumante, il repart, mouline sec les moulins, dehors et dedans, lui. Son armure est rouillée, sa barbe mal taillée, son or n'a pas de sud, il rêve dyslexique. Chevalier galope, trotte, saute, marche, esquive, d'une démarche plutôt grotesque, mais d'une démarche qui marche tout de même. L'adage dit du ridicule qu'il ne tue pas. C'est le sérieux qui l'utoxie en moins de deux. Céleste cyclotimique, tu as la mission de fortune, cassigne, vigne, livre et bon droit. Ne demande route à quiconque, suis les étoiles, suis les insectes ou ne suis pas. Va chez mur de briques, pigeon, renard, grenouille et truite, ronce tordue et bout de bois, tous t'acclament comme roi. Chevalier, au regard oblique, marche tordue, pour remettre ce monde droit. Voilà, très belle apologie quand même du chevalier à la triste figure, hein, dans cette langue rugueuse, ironique, de Thomas Vinon. 36 000 chiens sans maître. Le ciel comme une viande, et 36 000 chiens sans maître qui en déchirent le ventre. la tête oblique, l'œil de travers, l'aube en ligne de mire, je me dresse et je marche vers la meute assoiffée du petit jour. Balles en plomb de ma cervelle, l'odeur de la chasse, minute boueuse, l'odeur des heures qui s'arrachent dans le grand mou de la douleur, le grand épopée minable de nos débroussailles, et dans le sumac de la nuit qui saigne, 36 000 chiens sans maître hurlent à la mort. Demain est une bête, gémissement de brouillard. Mon âme carnivore, à grands coups de couteau, j'avance avec des larmes, j'avance avec des larmes. Le sang dans la lumière trace ses sentiers, le ciel comme une viande. 36 000 chiens sans maître qui en déchirent le ventre. Thomas Vignon. Et nous allons finir, peut-être, sur des fois oui, des fois non. Je parlais du nom tout à l'heure. Eh bien, lui, voyons ce qu'il dit sur des fois oui, des fois non. Des fois, ça vient par les petits pieds du bout des ongles et des orteils. Ça pique comme une anguille, une aiguille, qui brillait, ça rentrait, ça monte par la plante, par les chevilles, tout le long de la jambe, comme un coq sans tête. Ça danse dans les veines, un lierre de lumière, un ascenseur en verre, un fond de puits glacé, et jusqu'au bout des doigts de notre petite cervelle. On se laisse tout prendre par l'électricité tendre. Des fois, c'est par les cheveux. Une foudre en caresse qui découpe et qui tranche et ça rentre et ça creuse et ça vrille et ça danse à se déboutonner le col, la collerette et la blouse à suer derrière les oreilles. Un aveugle pourrait voir une boiteuse sauter sur la corde. Ça fait comme une flèche qui traverse le crâne et les yeux et la gorge et le ventre comme la peau d'un serpent qu'on arrache. Une flèche de glace, une glace qui ferait du feu qui brûlerait, pas qui prendrait dans les bras. Et là, on oublie tout. Comme dans un bon alcool, alambiqué, les varices et les corps, les enfants, comme mal, les bêtes qui se dévorent, c'est du merci qui coule sans âge et sans degré. Des fois, ça entre ailleurs par là, où on dit pas par la bouche, qui parle pas, et le ventre supplie tout en disant merci, et le sang devient suave et le noir devient blanc. La terre s'écarte, elle s'ouvre, et elle se ferme, le volcan joint la mer, le ciel serre le sol, plus personne n'est seul, et la misère s'enterre dans la nuit à aimer chaque feuille, chaque brin d'herbe, chaque mouche, même les corbeaux, même mes cafards, ça prend de partout, ça rentre partout, tout est semblable, tout est la flamme avant la cendre, comme un de ces matins qui n'en finit pas de monter dans le ventre. Des fois, ça parle pas. Ou ça dit pas des mots qu'on comprend, ça parle en silence, noir et méchant, en saloperie, en vengeance, en goût de fer et de foutre, et puis ça grandit, comme le vide, comme la mort dans le vent, comme les rires de l'orage. Alors, on dit pardon, et on se recroqueville, et on attend que ça revienne, ou que ça vienne tout court. Et ça ne vient jamais. Mais jamais n'existe pas. Thomas Vignon, La compagnie des monstres. Les murs. La réalité, c'est ce qui te résiste, disait Lacan. L'horizon, c'est ce que tu dessines sur ce qui te résiste. L'horizon, c'est le mur. Il y a les choses. Il y a les mots. Il y a les mots qui se transforment en choses. il y a les choses qui se transforment en mots. Entre les deux, il y a les murs. Les murs, c'est le papier. C'est la peau des choses et des mots. Tatouer des horizons, des arcs-en-ciel. Tatouer l'espace dans les pores du ciment, dans l'intimité des murs, à l'encre industrielle. Le ciel se couvre et déchire le film plastique. L'ombre est une armature saignante à la rescousse de l'horizon. Les murs font ce qu'ils peuvent. Le ciel ne doit pas croire à la couleur des murs. C'est un piège, une pieuvre de supermarché, mots, Lego, logos. Les murs font ce qu'ils peuvent. Restent stigmates et marques, espoir d'espace, cicatrices, territoires. Les murs dessinent des ciels, des mers, des montagnes. Les murs inventent leurs frontières, expulsent les perspectives. Les murs construisent des murs, des passeports, des faux papiers. Il ne reste plus que des géométries de plastique, des abysses entre les signes déliés de l'encre, les territoires, en haut, à droite, une zone neutre, vierge. Les murs gardent un espace de négociation. Le ciel comme résistance. On s'invente des horizons, des feuilles de papier, des dissidences. On s'invente des derrière, des au-delà, des plus loin. On dessine une fenêtre avec sa main. Des traces, des gravures, des esquisses. Les murs brouillonnent, les murs raturent. Ils vendent leur seconde en rouge. Il en faut des couches et des couches de lumière pour éteindre un mur. Voilà, nous allons finir sur ce poème. Thomas Vineau, La Compagnie des Monstres, c'est au Castor Astral en Poche Poésie, collection Poche Poésie. Petit livre très très agréable, donc comme c'est de faire vraiment ces éditions, hein, et qui ne coûte que 9,90 €. Voilà, avec une belle préface de Guy Boulet. Ainsi s'achèvent les poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine. À 17.